sous le feu des journées mondiales. Hier, celle du bégaiement. En dehors de faire beaucoup rire, le bégaiement est une manifestation un peu secrète du stress humain, à tel point d'ailleurs que les spécialistes le comparent à un iceberg dont les troubles de l'élocution ne seraient que la petite partie émergée. Les Oscars d'Hollywood servent parfois la cause scientifique, c'est le cas du superbe discours d'un roi. Les candidats à la guérison sont depuis beaucoup plus nombreux chez les orthophonistes. Orthophonistes, phoniatres, psychiatres, qui choisir? Car c'est vrai que les solutions existent. Alors, la preuve, quelques becs célèbres, on les cite toujours, Moïse, Napoléon, Marilyn Monroe, Winston Churchill, Louis Jouvet, Albert Einstein et bien évidemment George VI, le roi d'Angleterre, superbement interprété par Colin Firth dans le discours d'un roi. Et puis près de nous, ça parle plus, Bruce Willis, Julia Roberts, Julia Roberts, qui aurait pensé qu'elle était stressée, François Bayrou ou Albert de Monaco. Pour nous en parler en détail, des solutions et plus généralement de ce trouble de la parole, notre invitée sera le docteur Marie-Claude Monfray. Elle est phoniatre, elle nous expliquera ce que c'est à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Rassurez-vous, elle n'a pas la langue dans sa poche. Tout comme un habitué de cette émission, un célèbre nutritionniste qui, je suis certain, est déjà installé confortablement chez vous, pas dans le canapé du salon, mais dans la bibliothèque, son nom Patrick Sérog, qui, avec son complice Jean-Michel Cohen, a vendu des millions de livres pour nous aider à mieux manger. Alors avec lui, nous saluerons aujourd'hui un aliment mal compris, les pâtes. Ce sera mercredi leur journée mondiale et une divination, les femmes en cuisine. C'est en effet la semaine dernière la journée des cuisinières. Pas des plaques chauffantes, non plutôt celles à deux feux, ceux des yeux de nos compagnes qui ne sont pas souvent à la une des revues gastronomiques. Mais il faut reconnaître au quotidien de notre alimentation qu'elle joue un rôle fondamental. En faire les alliés d'une diététique de tous les jours que le monde moderne met plutôt à mal, ça sera notre objectif. L'équipe de Pourquoi Docteur, Cécile Koum, Mathias Germain et bien évidemment Fatima est au complet. On allume le fourneau.
Pourquoi Docteur ?
Tous les dimanches, 13h, 14h sur Europe 1.
Jean-François Lemoine.
Bonjour Marie-Claude Monfray.
Bonjour Jean-François Lemoine.
Vous êtes phoniatre, ça veut dire quoi phoniatre ?
Je suis médecin phoniatre, c'est le spécialiste des troubles de la communication humaine, voix, parole, langage et tout ce qui s'ensuit.
Alors, c'est quoi le bégaiement ? Parce qu'on pourrait parler du bafouillement d'Harry Cole, ça m'a beaucoup plu quand j'étais enfant. Bredouillement, blocage, répétition, tout ça c'est du bégaiement ?
Ce sont des formes de bégaiement assez apparentées, mais le bégaiement c'est un trouble de l'écoulement de la parole. C'est un trouble moteur, vraiment un trouble moteur.
Et les hésitations, est-ce que ça peut être un bégaiement déguisé ?
Alors, dans le temps, on disait bégaiement physiologique, mais il faut mettre fin à tout cela.
Physiologique, ça, c'est les médecins qui aiment bien dire
sûr.
Ça. Oui.
On a tous des hésitations, des reprises et tout ça. Ce qu'on entend vraiment caractéristique dans le bégaiement, c'est une perte du rythme et un surcroît de tension.
Il y a des degrés, ça peut être plus ou moins grave quand même. À quel moment ça devient grave d'ailleurs ?
Alors, je vais faire une petite mise au point parce qu'il y a une confusion qui vient du fait qu'on utilise le même mot bégaiement pour le symptôme lui-même, qui est un trouble de l'écoulement de la parole, et qui peut être isolé. Et puis, un tas de syndromes, d'affections dans lesquels il y a entre autres du bégaiement. Le bégaiement, c'est... Je le compare souvent à une boiterie de la parole.
Alors oui, mais j'ai l'impression que vous ramenez le bégaiement à un problème mécanique et tout ça.
C'est
alors,
ce que c'est au départ.
Oui, parce que
mais alors, ça devient secondairement un trouble de la communication.
Oui, parce qu'après, on s'y perd un petit peu quand on a des...
On essaie de clarifier.
Oui, non, mais justement, quand on discute avec des spécialistes du bégaiement, ils disent, oui, c'est un trouble moteur.
Oui.
Et puis après, on dit, ah là là, c'est l'iceberg. Alors en haut, il y a le bégaiement. Puis en dessous, il y a ce trouble de
mais
la communication.
Mais c'est ce que le bégaiement fait à la personne bègue.
Oui, mais c'est la poule...
Non, vraiment, le problème au départ, il est moteur et on le voit sur les...
Et c'est le bégaiement qui donne tous ces...
Tout à fait.
Tout à fait. Il y a des signes d'accompagnement. Généralement, les gens qui sont bègues aussi ont souvent des tics ou des choses comme ça.
Alors, il peut y avoir des formes avec des tics, voire des dystonies, des espèces de grimaces, des choses comme ça. Comme il peut y avoir des formes chez des gens mal latéralisés ou des épileptiques ou des enfants qui ont des gros retards parole et de langage.
Est-ce qu'un enfant bègue est conscient de son trouble ?
Ça dépend à quel âge et ça dépend s'il a rencontré ou pas la moquerie.
Pourquoi ? Pourquoi le... excusez-moi. C'est-à-dire qu'avant la moquerie, il ne se rend pas compte.
Ouais, l'enfant...
Ça ne dérange pas, c'est ça. Je suis un peu surpris.
L'enfant
vous dites
pas
qu'il
un
faut qu'on se moque d'un enfant.
Développé
pour...
au départ. Hein, c'est... Les parents, si. Hein, ça peut... Narcissisme des parents peuplent nos salles d'attente. Mais l'enfant, s'il est bien dans sa parole, s'il est bien dans sa communication, si... Mais il y a des enfants qui n'en sont quasiment pas conscients, mais il y a des enfants qui en sont conscients tout de suite.
Un bec tout seul dans sa cuisine, il bégaye pas ? Quand ils parlent à voix haute ?
Presque tous ne bégayent pas, mais quelques-uns bégayent quand même.
Et ça disparaît systématiquement en chantant ?
Oui, parce que là, le rythme est préfabriqué. Et c'est pour ça que les méthodes qui, un peu, j'allais dire, commerciales, qui donnent un rythme préfabriqué, comme un métronome, comme de répéter après quelqu'un ou tout ça, sont en fait des escroqueries parce que donc, tout le monde est dans l'heure. Effectivement, on parle mieux, et puis le, entre guillemets, thérapeute se dit, ah ben, je l'ai guéri et tout ça, alors qu'on s'est mis dans une circonstance où le bégaiement ne peut pas apparaître.
À quel âge on devient bègue ?
Entre 2 ans et 6 ans.
Systématiquement, c'est-à-dire qu'un adulte bègue a été bègue enfant ?
Non, parce qu'il peut y avoir, il peut y avoir des bégaiements neurologiques. Il y a 3 sortes de bégaiements. Le développemental chez l'enfant, développemental persistant, une fois sur 4, ça persiste jusqu'à l'âge adulte. Et il y a des bégaiements qui apparaissent après 8 ans, c'est-à-dire après l'installation du langage. Là, on les appelle bégaiements neurologiques, mais tout bégaiement est forcément neurologique.
Vous rassurez, Fatima, elle ne peut pas devenir bègue.
C'est exactement la question que j'avais posée. Est-ce qu'on peut devenir bègue adulte ?
Des accidents vasculaires cérébraux, après des épilepsies. Ou après certains médicaments. Ah, il y a des médicaments. Des médicaments en particulier pour les algies profondes.
C'est-à-dire les douleurs profondes.
Oui. Voilà, hein, pour les fibromyalgies.
Non, mais simplement, vous me rassurez, comme on va voir qu'il y a une part importante du stress et de l'affectif, ce n'est pas une réflexion que je peux faire à Fatima qui peut ruiner son métier. C'est ça, simplement, ce qu'elle voulait vous dire.
Je savonne, mais pas à ce moment-là.
Elle ne pourra pas porter plainte pour ça.
L'émission se poursuit. Pourquoi docteur qui aujourd'hui parle, comme dans le premier sujet, de bégaiement. Jean-François Lemoine en reçoit le docteur Marie-Claude Monfray, phoniatre à l'hôpital Georges Pompidou de Paris.
Alors, Fatima, vous avez bien compris, on ne naît pas bègue, on le devient. Comment ? C'est ce qu'on va voir.
On est à risque d'être bègue.
Pourquoi alors ? Parce qu'on a des parents bègues ?
Parce qu'il y a eu des découvertes, oui, des parents bègues. Moi, j'en suis l'exemple vivant, puisque je suis la fille d'un médecin bègue et la mère d'un jeune homme qui a bégayé dans sa jeunesse.
Vous avez essayé de comprendre pourquoi votre père était bègue et votre fils l'a été, pourquoi vous ne vous l'êtes pas ?
On le sait maintenant, c'est parce qu'il y a des prédispositions génétiques et une génétique très compliquée qui est en train d'être élucidée et sur lesquelles il y a eu de très importantes publications depuis 2 ans.
C'est vrai que la génétique va bouleverser probablement la pratique de la médecine. Chaque semaine, on en parle. Oui. Vous dites qu'un jour, on aura sur une simple analyse génétique, on pourra savoir s'il y a une tendance au bégaiement.
Oui. C'est une génétique qui est très complexe et on se rend compte que c'est apparenté à des maladies neurologiques connues très graves. Voilà. La maladie de Tay-Sachs, c'est les lipidoses, des choses comme ça.
Oui, cela rend les choses trop compliquées. Voilà. Vous dites tous, les spécialistes du bégaiement, que le choc affectif, on le retrouve. Est-ce que c'est la tarte à la crème ?
Non, oui,
c'est la tarte à la crème. Oui. Ce sont les films qu'on peut
voir. C'est la doxa là-dessus en ce moment, c'est vraiment...
Le défaut de maturité, c'est-à-dire que c'est un défaut de maturité.
Le bon serait peuplé de bègues.
Non, mais c'est un défaut de maturité de l'enfant, d'être bègue.
Non, pas non, non, de mais... quelle maturité d'ailleurs.
Je ne sais pas, moi je vous prends toutes les causes, par exemple, toujours entendu, problème d'allaitement. Ben oui, mais pourquoi on retrouve ça toujours ?
D'un enfant qui serait allaité, d'un enfant qui serait pas allaité.
Non, on dit toujours qu'il y a des problèmes, c'est au moment de l'allaitement, et c'est un moment...
C'est la première fois que j'entends ça.
Bon, alors écoutez, c'est dans un des livres que vous m'avez conseillé. Bon. Défaut de... gaucher, par exemple, les gauchers.
Alors, il y a effectivement 30 à 40% de personnes gauchères dans la population des personnes qui bégayent, alors qu'il y en a à peine 10% dans la population lambda. Mais on retrouve, c'est toujours le cas où je vous ai dit, des bégaiements associés à quelque chose, on retrouve beaucoup de maladresse et de problèmes de coordination chez les personnes bègues. Et le bégaiement serait un des symptômes d'une affection, d'un manque de coordination qui serait plus global.
Ouais. On dit aussi des déficits d'audition dans des enfants qui entendent mal.
Pas du tout, c'est ce qui a le moins associé au bégaiement.
Est-ce qu'on peut parler un instant de limitation ? Vous savez que souvent, on dit que des enfants élevés par leur père, et pas des enfants biologiques, parle exactement comme la personne qu'ils ont élevée. Est-ce que le fait d'avoir un père bègue fait qu'on peut le limiter et se permettre à parler comme lui ?
Non, moi, de limitation, non.
Non.
Enfin, je veux dire non.
C'est pas
possible. Non, tout à fait. On croit ça, mais c'est bien du domaine de la croyance, c'est-à-dire perception erronée de la réalité.
Plutôt que vous me disiez non à toutes les croyances que j'amène, vous allez maintenant me dire qu'est-ce qu'on croit qui fait qu'on devient bègue. On dit, alors j'en sors un autre, des parents qui déménagent trop souvent.
Alors, il faut toute une somme de choses pour devenir bègue. Hein, et dans le verre d'eau qui fait déborder le vase, quelle est la goutte ? On pourra toujours se poser la question. Et c'est pas ça qui résoudra le problème.
Il n'y a donc, pas à culpabiliser les parents d'avoir été trop attentifs,
moi, j'ai
pas
assez attentifs. J'ai décidé, quand mon enfant à moi a bégayé, qu'on n'allait pas y mettre la culpabilité. Je continue à avoir cette ligne de conduite. Tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas rajouter, parce qu'au contraire, il faut que les parents soient vraiment partie prenante dans le traitement, l'abord thérapeutique, et on a besoin qu'ils
se déculpabilisent. Le problème, à vous écouter, comme les causes ne sont pas claires, le traitement,
si,
c'est pas facile. Pourquoi
enfin, elles sont claires. Il est clair qu'elles sont complexes et multiples.
Vous avez dit prédisposition génétique, mais sur quoi on peut jouer? Alors, dites-moi des causes sur lesquelles on peut jouer.
Eh bien, dans les facteurs qui peuvent exacerber ce bégaiement ou le faire apparaître, hein, c'est toute la différence entre le phénomène et puis le génotype, il y a effectivement tout ce qui est de l'ordre du stress et de la précipitation. Ça, c'est vraiment les deux facteurs majeurs. Le stress, il peut être propre à l'enfant, un terrain anxieux, phobique. Mais ça peut être aussi par l'environnement, des déménagements, des pressions parentales.
Alors, vous êtes paradoxal, vous m'avez dit j'ai décidé de ne pas culpabiliser les parents, et là, dans les causes, vous chargez la mule des parents quand même. Hein.
Oui, mais attendez, on désamorce les grenades sans dire que... voilà, hein, c'est...
Est-ce qu'on peut, en conclusion de cette approche du bégaiement, avoir un discours positif pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont bègues, en disant... Est-ce qu'on a d'ailleurs même un pourcentage de guérison du bégaiement quand on le prend en charge assez rapidement?
Alors, sur la question du pourcentage, c'est impossible de vous répondre parce que les traitements doivent être adaptés à chaque cas. Donc, il n'y a pas deux cas pareils, d'autant plus qu'ils sont extrêmement complexes comme on vient de le voir. Donc, les statistiques, entre guillemets, ne sont pas possibles. Mais le meilleur moyen de le savoir, c'est de faire des évaluations vraiment très complètes et puis de réévaluer constamment, comme quand on prend la fièvre, on voit si ça baisse ou pas.
Oui, mais hein
donc,
Espoir.
3 fois sur 4, il y a une résolution spontanée du problème.
Alors, résolution spontanée, dans le langage des médecins, ça veut dire guérison. Hein.
Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, spontanée. Quand le bégaiement est isolé, il est extrêmement important de faire un diagnostic bien approfondi et de voir s'il n'y a pas d'autres problèmes connexes. Très, très important.
Restez avec nous, on continue de parler de tout ce qu'il faut savoir sur le bégaiement dans Pourquoi Docteur, dans un instant.
Pourquoi Docteur ?
Tous les dimanches, 13h, 14h sur Europe 1.
Jean-François Lemoyne.
Alors dites-moi, on a été voir qui, si on est bègue ?
Le
psy, l'orthophoniste.
Voilà. Alors on peut aller, pas le psy, on peut voir le médecin phoniatre. Il y a des consultations maintenant dédiées au bégaiement, il n'y en a pas des masses. J'en ai 2 sur Paris, il y en a en province, il y en a une à Toulouse par exemple.
Il y a combien de bègues dans notre pays ?
500 000.
500 000 et 2 consultations à Paris. Vous voyez, ça va être, je suppose que les listes d'attente sont...
Alors, j'ai pas fini.
Ah bon? Non, mais pour des phoniatres, vous avez 2 consultations de phoniatres à Paris.
Ben voilà.
Pour 500 000 becs dans ce qui doit faire un pourcentage largement au-dessus de quelques dizaines de milliers dans notre
ville. Je devrais être cloné, je trouve.
Ben écoutez, je sais pas, mais en tous les cas, jusqu'ici, si je suis bègue et que je dis que faut aller vite, parce que vous m'avez dit qu'il fallait aller vite, si mon fils est bègue ou ma fille,
non, il faut intervenir, pas dans la semaine, ce n'est pas une urgence.
Non, mais apparemment, avec 2 phoniatres pour la ville de Paris, c'est...
Alors, pour continuer, il y a maintenant des orthophonistes spécialisés, parce que j'ai monté un diplôme universitaire il y a 7-8 ans, donc il y a des orthophonistes qui ont fait 2 ans de spécialisation et qui sont spécialisés dans le bégaiement et qu'on peut retrouver par les associations ou à partir vers qui, moi, je dirige les patients quand je les vois en bilan.
Alors, ça dure combien de temps, un traitement ?
Ça dépend. Suffisamment longtemps, je sais que je suis vague dans l'histoire.
Oui, très, très vague là.
Mais non, je suis vague parce qu'il faut que ce soit adapté.
Oui, mais dites-moi, si c'est de l'ordre de 6 mois, d'un an, 10 ans, c'est...
Personnellement, je trouve que c'est 2 ans, c'est-à-dire une année intensive et une année de suivi, ou si l'enfant est grand ou si c'est un adulte, une année où on est en groupe, où on est dans des activités impliquant d'autres domaines de la communication.
Ça coûte cher ?
C'est pris en charge par la Sécurité sociale.
Totalement.
C'est pris en charge de l'orthophonie à 65%. Donc avec les mutuelles, c'est vraiment un pays où on prend très bien en charge le bégaiement. C'est la prise en charge la moins pratiquée au monde par les rééducateurs, hein, le bégaiement.
Quand
par les orthophonistes et les logopèdes.
Quand on dit qu'il faut agir assez vite, est-ce qu'il n'y a aucun espoir pour quelqu'un qui serait bègue depuis 20, 30 ans, là, qui nous écoute ?
Il y a l'espoir de diminuer le bégaiement et surtout de mieux vivre avec, et surtout avant tout d'aider la personne à l'accepter, parce que c'est là qu'est la clé du succès, qu'on peut surmonter le bégaiement chez l'adulte bègue, c'est-à-dire dans le bégaiement persistant.
Est-ce qu'il y a beaucoup de charlatans sur Internet? Parce que j'ai vu qu'il y avait
pas
énormément...
Que sur Internet.
Non,
oui,
mais
il y en a
pas que sur Internet. Oui.
Il y en a toujours eu.
Comment choisir? Il faut donc absolument, vous avez quelque chose à nous conseiller pour que la personne qui a envie aujourd'hui de consulter aille voir quelqu'un. Parce que le médecin généraliste, est-ce que c'est un bon relais de ce que vous faites?
Ben on essaie que ce soit un meilleur relais, mais pour le moment...
Ça, c'est ce qu'on appelle la langue de bois et politiquement correct de dire...
Effectivement, nous, mais moi j'essaye de publier des articles dans les revues de médecine générale et tout ça, pour montrer que on peut prendre en charge, il n'y a pas que l'orthophonie, il y a aussi des traitements médicaux, il y a tout ça.
C'est pas un bon bouquin, un peu de volonté qui arrive au bout, quoi. C'est ça que vous êtes en train d'expliquer.
Il vaut mieux avoir un professionnel, mais le professionnel n'est pas toujours disponible. Enfin, on ne peut pas toujours en avoir sous la main.
Nous sommes toujours en compagnie de Jean-François Lemoine, toute l'équipe de Pourquoi Docteur et du docteur Monfray pour nous parler du bégaiement sur Europe 1.
On n'a pas parlé des médicaments.
Oui, il y a des médicaments qui peuvent aider. Il n'y a pas de médicaments pour le moment parfaitement ciblés sur le bégaiement, mais ils peuvent aider, en particulier chez l'enfant et chez l'adulte, ils peuvent aider sur la composante tonique du bégaiement.
D'accord. Cécile Coumeau, bonjour.
Bonjour Jean-François, bonjour à tous.
Alors, à l'occasion de la journée mondiale du bégaiement, on ne peut pas passer sous silence l'événement qu'a constitué la sortie du discours d'un roi.
Oui, parce que pour ceux qui auraient hiberné l'hiver dernier, il faut au moins ça. Je rappelle donc que c'est l'histoire du roi anglais George VI qui a réussi à surmonter son bégaiement grâce au soutien de sa femme, bien sûr, mais aussi grâce à un orthophoniste. Enfin, on ne sait pas bien s'il était orthophoniste d'ailleurs, mais en tout cas aux méthodes plutôt originales.
Et pourquoi ce film a eu un retentissement auprès des personnes bègues?
Alors, bien sûr, c'est vrai que les films dont le héros est bègue, ils ne sont pas légion déjà, mais là c'est un coup de maître pour plusieurs raisons. D'abord parce que le symbole est quand même très fort. En effet, George VI n'a pas eu d'autre choix que d'essayer et de vaincre son handicap parce qu'il voulait assumer son rôle de roi et surtout faire rempart à l'Allemagne nazie.
Alors ça c'est l'aspect romanesque, mais ce film a d'autres vertus quand même.
Oui, on a pu se rendre compte, en fait qu'il avait l'effet d'une vraie campagne de santé publique, peut-être même mieux d'ailleurs. Les personnes atteintes de bégaiement se sont manifestement senties valorisées. Il suffit de consulter, j'ai regardé un petit peu sur internet les blogs de personnes bègues par exemple, et c'est vrai que tous les témoignages allaient dans ce sens. J'en ai retenu un qui me semblait assez emblématique, c'est la mère d'un enfant bègue qui raconte par exemple qu'elle a dit à son fils à l'issue du film: et toi aussi mon fils, tu auras un bel avenir. Voilà, c'est possible malgré tout, malgré le bégaiement, de s'en sortir. Alors c'est vrai que ce n'est pas le premier film à changer l'image d'une maladie. On se souvient sans doute de Philadelphia pour le sida, de Rain Man pour l'autisme, ou encore Le huitième jour pour la trisomie. Mais là c'est vrai, on dit souvent que le cinéma peut-être provoque la violence chez les enfants ou incite à une consommation de drogue par exemple, mais c'est aussi bon pour la santé, on le voit là avec ce film. Alors est-ce que, Madame Monfray, est-ce que vous pouvez dire avec ce film si ça a généré beaucoup de demandes, de consultations? Vous avez vu arriver des gens dans votre cabinet à l'issue du film?
Oui, ça sensibilisait surtout des adultes. Et effectivement, ça a été très très bien relayé par les associations et par les blogs qui jouent un rôle majeur en ce moment dans la diffusion du savoir et de l'information sur le bégaiement.
Et est-ce que, à l'inverse, malgré tout, ça n'a pas généré peut-être de faux espoirs aussi sur certaines méthodes, par exemple, et notamment la méthode qui est présentée dans le film?
On en a toujours des faux espoirs, mais cette méthode, elle était très valable. Il était vraiment un précurseur, ce monsieur Log.
Fatima, je vous ai vu réagir.
Non, je voulais juste savoir si vous avez des gens qui ont vraiment débarqué en consultation en disant « j'ai vu le discours d'un roi, je veux guérir ».
Je veux guérir, oui.
On a vu que c'était un travail d'équipe quand même dans ce film.
Tout à fait. Hein,
la femme joue un rôle important avec ce...
Mais le plus on mobilise autour de la personne, plus on est efficace, il n'y a pas de doute. Mais elle a été un bon supporteur, sa femme.
Le premier contact, ça semble fondamental. Comment ça se passe, la première consultation?
Eh bien, ça se passe longuement. C'est pas une consultation en un quart d'heure, c'est une heure et demie, où vraiment on apprend à connaître la personne, à discuter, à voir ce qu'elle attend, et puis en même temps à l'écouter à plusieurs niveaux. Comment elle bégaye et qu'est-ce qu'elle en dit de son bégaiement.
Là, le traitement est assez rapide et assez spectaculaire. On est dans la fiction hollywoodienne.
Oui, c'est une ellipse, hein, un film. Et puis c'est un très bon film aussi sur la phobie sociale. Hein. Donc ce bégaiement se greffait sur une phobie sociale chez lui.
J'ai bien compris qu'il faut vraiment se renseigner quand on a un enfant bègue. Alors vous allez nous conseiller un site par exemple peut-être? Bégaiement.net, moi j'ai vu ce site-là.
Alors, il y a bégaiement.org, qui est le site de l'association Parole Bégaiement, et puis il y a d'excellents blogs. Mais vraiment, tous les blogs sont absolument excellents, et ils publient bien, ils font un bon travail d'information.
Et puis moi, je vous conseille un livre excellent à lire, Le Bégaiement, comment le surmonter, de Mireille Guéraud-Handel et de Marie-Pierre Poulat aux éditions Odile Jacob. Je suppose que vous le conseillez aussi.
Mais tout à fait, ce sont deux enseignants du DU et deux orthophonistes de haut vol.
De vos élèves?
Non, ce sont des amis, des enseignantes.
Et bien évidemment, des associations nombreuses, voilà, dont il faut insister sur le rôle. Voilà. Eh bien écoutez, merci.